Casanova, l'esclave grec. La tartane aborda au port de Pola, qu'on appelle Veruda, et nous débarquâmes. Après avoir monté pendant un quart d'heure, nous entrâmes dans la ville où je consacrais une couple d'heures à visiter les antiquités romaines qui s'y trouvent. Car cette ville a été la capitale de l'Empire. Je n'y trouvais pourtant d'autres vestiges de grandeur qu'une arène ruinée. Nous retournâmes à Veruda et nous remîmes à voile. Le lendemain, nous nous trouvâmes devant Ancône. Mais, obligés de louvoyer, nous n'y entrâmes que le surlendemain. Ce port, quoiqu'il passe pour un grand monument de Trajan, serait fort mauvais sans une digue faite à grands frais et qui le rend assez bon. J'observai une chose digne de remarque, c'est que dans l'Adriatique, le côté du nord est rempli de ports, tandis que le côté opposé n'en a qu'un ou deux. Il est évident que la mer se retire vers le levant, et que dans 3 ou 4 siècles, Venise sera jointe à la terre ferme. Nous descendîmes à Ancône, au vieux lazaret, où on nous annonça que nous subirions une quarantaine de 28 jours, parce que Venise avait admis, après une quarantaine de 3 mois, l'équipage de 2 vaisseaux de Messine, où récemment la peste avait exercé ses ravages. Je demandai une chambre pour moi et pour le frère Stefano, qui m'en sut un gré infini. Je louai à des Juifs un lit, une table et quelques chaises, m'obligeant à payer le loyer du tout à l'expiration de la quarantaine. Le moine ne voulut que de la paille. Oh, je pense que s'il avait pu deviner que sans lui je serais peut-être mort de faim, il ne se serait pas tant glorifié d'être logé avec moi. Un matelot, qui espérait me trouver généreux, vint me demander où était ma malle. Et lui ayant répondu que je n'en savais rien, il se donna beaucoup de peine pour la trouver avec Maître Alban, qui me donna envie de rire quand il vint me demander excuse de l'avoir oubliée, me promettant qu'il aurait soin de me la faire parvenir en moins de 3 semaines. Le récollet, qui devait en passer 4 avec moi, s'attendait à vivre à mes dépens, tandis que c'était lui que la Providence m'avait envoyé pour m'entretenir. Il avait des provisions avec lesquelles il aurait pu nous nourrir 8 jours. Mais il fallait penser plus loin. Après souper, donc, je lui fis en style pathétique le tableau de ma situation et du besoin que j'aurais de tout jusqu'à Rome, où je devais être, lui dis-je, secrétaire des commandements des mémoriaux. Et qu'on juge de ma surprise quand je vis ce lourdeau s'épanouir au triste récit de mes infortunes. Je me charge de vous jusqu'à Rome, dites-moi seulement si vous savez écrire. Oh, vous moquez-vous de moi? Quelle merveille! Moi que vous voyez, je ne sais écrire que mon nom. Il est vrai que je sais l'écrire des deux mains, mais à quoi me servirait d'en savoir davantage? Oh, je m'étonne, car je vous croyais prêtre. Je ne suis pas prêtre, je suis moine. Je dis la messe et par conséquent, je dois savoir lire. Saint François, dont je suis un indigne fils, ne savait pas lire et se fout pour cela qui n'a jamais dit la messe. Bref, puisque vous savez écrire, vous écrirez demain en mon nom à toutes les personnes que je vous nommerai, et je vous réponds qu'on vous enverra de quoi faire bourbance jusqu'à la fin de la quarantaine. Le lendemain, il me fit passer la journée à écrire 8 lettres, parce qu'il y avait dans la tradition orale de son ordre que, lorsqu'un moine aura frappé à 7 portes, où on lui aura refusé l'aumône, il doit frapper à la 8e avec assurance, car là, elle ne lui manquera pas. Et comme il avait déjà fait le voyage de Rome, il connaissait toutes les bonnes maisons d'Ancône, dévotes à Saint-François, et tous les supérieurs de couvents riches. Je dus écrire à tous ceux qu'il me nomma et n'omettre aucun des mensonges qu'il me dictait. Il m'obligea aussi à signer pour lui, m'alléguant que s'il signait lui-même, on verrait facilement qu'il n'avait pas écrit les lettres, ce qui lui ferait du tort. Car, dit-il, dans ce siècle corrompu, on estime que les savants. Il me fit farcir les lettres, le passage latin, même celles qui étaient adressées à des femmes, et mes remontrances furent inutiles, car, quand je résistais, il me menaçait de ne plus me donner à manger. Je pris le parti de faire tout ce qu'il voulut. Il me fit dire au supérieur des jésuites qu'il ne m'adressait pas aux capucins parce qu'ils étaient athées. Et que c'est pourquoi Saint François n'avait jamais pu les souffrir. Et j'eus beau lui dire qu'au temps où vivait ce saint, il n'y avait ni capucins ni récollets, il me traita d'ignorant. Je crus vraiment qu'on le traiterait de fou et que personne n'en verrait rien. Mais j'étais dans l'erreur, car les provisions arrivèrent en si grande abondance que j'en fus tout surpris. On nous envoya de 3 ou 4 côtés du vin pour toute la quarantaine, et d'autant plus que je ne buvais que de l'eau, tant il me tardait de recouvrer la santé. Et quant au manger, nous en recevions journellement plus qu'il en aurait fallu pour 6 personnes. Nous donnions le reste à notre gardien, qui avait une nombreuse famille. De tout cela, il ne se sentait reconnaissant qu'à Saint François, et nullement aux bonnes âmes qui lui faisaient l'aumône. Il se chargea de faire blanchir mon linge par le gardien, car je n'aurais pas osé le donner moi-même. Quant à lui, il disait qu'il ne risquait rien, puisque tout le monde savait que les récollets ne s'en servaient point. Je restai au lit presque toute la journée, et cela me dispensa de me faire voir à ceux qui crurent devoir lui rendre visite. Ceux qui ne vinrent pas lui écrivirent des lettres pleines de disparates, adroitement tournées, et que je me donnais bien garde de lui faire sentir. J'eus du reste toutes les peines du monde à lui persuader que ces lettres ne demandaient point de réponse. 15 jours de repos et d'un régime sévère me mirent sur la voie d'un parfait rétablissement, et j'allais du matin au soir me promener dans la cour du Lazaret. Mais un marchand turc étant arrivé de Thessalonique, et étant venu loger avec tout son monde au rez-de-chaussée, je dus suspendre mes promenades. Alors le seul plaisir qui me resta fut de passer mes heures sur un balcon donnant sur cette même cour. J'y vis une esclave grecque d'une beauté surprenante et qui m'intéressa beaucoup. Elle passait presque toute la journée assise sur le seuil de la porte, occupée à tricoter ou à lire. Lorsqu'elle levait ses beaux yeux et qu'elle rencontrait les miens, elle baissait modestement la tête. Et quelquefois même elle se levait, rentrait à pas lents, ayant l'air de vouloir me dire « Je ne savais pas que je fusse observé. » Sa taille était svelte et grande, sa figure annonçait la première jeunesse. Elle avait la peau très blanche, les cheveux, les yeux d'un beau noir. Elle était costumée à la grecque, ce qui donnait à tout son être quelque chose d'extrêmement voluptueux. Oisive dans un lazaret et tel que la nature et l'habitude m'avaient fait, pouvais-je contempler un objet aussi séduisant pendant une grande partie de la journée sans en devenir fou? Je l'avais entendu parler en langue franque avec son maître, beau vieillard qui s'ennuyait comme elle et qui ne sortait parfois avec sa pipe à la bouche que pour rentrer l'instant d'après. Oh, j'aurais volontiers dit quelques mots à cette charmante fille, si j'avais eu peur de la faire partir et de ne plus la revoir. Mais, dans cette crainte et ne pouvant plus me contenir, je pris le parti de lui écrire. N'étant pas embarrassé du moyen de lui faire parvenir ma lettre, puisque je n'avais qu'à la laisser tomber du haut du balcon. Mais n'étant pas sûr qu'elle la ramassât, voici comment je m'y pris pour ne point risquer de faire une fausse démarche. Saisissant un instant où elle se trouvait seule, je laissai tomber à ses pieds un petit papier plié en forme de lettre. Mais j'eus soin de n'y rien écrire, tenant en même temps une véritable lettre à la main. Et dès que je la vis s'incliner pour ramasser la première, je laissai vite tomber la seconde, qu'elle ramassa également, les mettant l'une et l'autre dans sa poche. Un instant après, elle disparut. Ma lettre était à peu près conçue en ces termes: Ange de l'Orient, je t'adore. Je passerai toute la nuit sur ce balcon, désirant que tu y viennes un seul quart d'heure, entre ma voix par le trou qui est sous mes pieds. Nous parlerons en voix basse, et pour me comprendre, tu pourras monter sur la balle qui est sous le même trou. Je priai mon gardien de ne pas m'enfermer comme il le faisait toutes les nuits, et il y consentit, à condition qu'il me surveillerait. Car si je m'avisais de sauter dans la cour, il irait de sa tête. Mais il promit de ne pas venir sur le balcon. Et à minuit, au moment où je commençais à désespérer, je la vois paraître. M'étendant alors de tout mon long, la tête contre le trou du plancher, qui était un carré raboteux de 6 pouces, je la vis monter sur la balle et sa tête se trouva à 1 pied de distance du balcon. Elle était obligée de s'appuyer d'une main contre le mur parce que sa position la faisait chanceler. Et dans cet état, nous parlâmes de nous, d'amour, de désir, d'obstacles, d'impossibilités et de ruses. Je lui dis ce qui m'empêchait de sauter dans la cour. Et elle m'observa que, quand bien même je ne serais pas retenu par cette raison, nous nous perdrions, vu l'impossibilité de remonter. Qu'en outre, Dieu savait ce que le Turc aurait fait d'elle, s'il nous avait surpris ensemble. Alors, me promettant de venir me parler ainsi toutes les nuits, elle mit sa main dans le trou. Et là, je ne pouvais me rassasier de la baiser, car il me semblait que de ma vie, je n'avais touché une main aussi douce et aussi délicate. Mais quel plaisir quand elle me demanda la mienne! Je passai vite mon bras droit au travers du trou, de façon qu'elle colla ses lèvres sur le pli du coude. Que de doux larcins ma main se permit alors! Mais il fallut nous séparer, et je vis avec plaisir, en rentrant, que le gardien dormait d'un profond sommeil dans un coin de la salle. Content d'avoir obtenu tout ce que, dans cette position gênante, je pouvais me promettre, je me creusais le cerveau pour trouver le moyen de me procurer plus de délices la nuit suivante, quand je vis que le génie féminin de ma belle grecque était plus fécond que le mien. Se trouvant dans la cour avec son maître, elle lui dit en turc quelque chose qu'il approuva, et bientôt un domestique turc, aidé du gardien, vint placer sous le balcon un gros panier de marchandises. Elle présidait à cet arrangement, et, comme pour faire plus de place au panier, elle fit placer une balle de coton en croix sur les 2 autres. Pénétrant son dessein, je tressaillis de joie, car elle se procurait le moyen de s'élever de 2 pieds plus haut. Mais je réfléchis qu'elle se trouverait dans la position la plus gênante, et que, forcée de se courber, elle n'y résisterait pas. Le trou n'était pas assez grand pour qu'elle puisse y passer la tête et se mettre à son aise en se tenant debout. Et pourtant, il fallait trouver un moyen de parer à cet inconvénient. Je ne vois que celui d'arracher la planche. Mais cette opération n'était pas facile. Je m'y décide pourtant à tout événement, et je vais, dans la chambre, me munir d'une grosse tenaille. Le gardien n'était pas présent. Profitant de son absence, je parviens à arracher avec précaution les quatre gros clous qui assujettissaient la planche, et me voyant maître de la soulever à volonté, ayant remis la tenaille à sa place, j'attends la nuit avec une amoureuse impatience. L'objet de mes désirs vint exactement à minuit. Voyant la peine qu'elle avait pour pouvoir grimper et se fixer sur la nouvelle balle, je déplace la planche et, étendant mon bras tant que je pus, je lui offris un point d'appui solide. Elle se redresse et se trouve agréablement surprise de pouvoir passer sa tête et son bras dans le trou. Nous ne perdîmes pas de longs instants en compliments. Nous nous félicitâmes seulement d'avoir travaillé de concert à l'obtention du même but. Si la nuit précédente je m'étais trouvé plus maître d'elle qu'elle ne l'était de moi, cette fois c'était le contraire. Sa main dévorait tout mon être, mais moi, j'étais arrêté au milieu de ma course. Elle maudissait celui qui avait fait la balle de ne pas l'avoir faite d'un demi-pied plus grosse pour pouvoir se rapprocher davantage de moi. Cela eût été que nous n'aurions pas été contents, mais elle aurait été plus satisfaite. Nos plaisirs, quoique stériles, nous occupèrent jusqu'à l'aube du jour. Je remis avec soin la planche et j'allais me coucher avec un extrême besoin de refaire mes forces. Avant de me quitter, ma charmante grecque me prévint que leur petit Bayram commençait ce jour-là, qu'il durerait 3 jours et que nous ne pourrions nous voir que le quatrième. La première nuit après le Bayram, n'ayant point manqué de venir, elle me dit qu'elle ne pouvait être heureuse sans moi. Qu'étant chrétienne, je pouvais l'acheter après ma sortie du Lazareth. Cette déclaration me força à lui avouer que je n'en avais pas les moyens, ce qui lui fit pousser un profond soupir. La nuit suivante, elle me dit que son maître la vendrait pour 2000 piastres, qu'elle me les donnerait, qu'elle était vierge et que je serais content d'elle. Elle ajouta qu'elle me donnerait une boîte remplie de diamants, dont un seul valait 2000 piastres, et qu'en vendant les autres, nous pourrions vivre à notre aise sans jamais craindre la pauvreté. Elle m'assura que le Turc ne s'apercevrait point de la disparition de la boîte, et que d'ailleurs il en soupçonnerait tout le monde plutôt qu'elle. J'étais amoureux de cette femme. Sa proposition m'inquiéta, mais le lendemain, à mon réveil, je ne balançais pas. Elle vint à l'heure ordinaire avec la boîte. Mais, lui ayant dit que je ne pouvais me résoudre à être complice d'un vol, elle soupira, me dit que je ne l'aimais pas comme elle m'aimait, mais qu'elle voyait bien que j'étais bon chrétien. C'était la dernière nuit. Nous nous voyons probablement pour la dernière fois. Le feu qui circulait dans nos veines nous consumait. Elle me proposa de la hisser sur le balcon. Quel est l'amant qui aurait osé reculer à une proposition si attrayante? Je me lève et, sans être un nouveau Milon, la prenant sous les bras, je l'attire à moi et bientôt je vais la posséder. Et tout à coup, je me sens saisir par les épaules. C'est le gardien qui me crie « Que faites-vous ?» Oh, je laisse échapper le précieux fardeau qui regagne sa chambre. Et moi, poussant un cri de rage, je me jette à plat ventre sur le plancher. Ne faisant aucun mouvement, malgré les secousses du gardien, que j'étais tenté d'anéantir, je me relevais enfin et j'allais me coucher sans lui dire un mot, sans même remettre la planche. Le prieur vint le matin nous déclarer libres. En partant, le cœur navré, j'aperçus la grecque, les yeux baignés de larmes.